Je suis Christian Lacombe et dans un brin d'histoire, j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai pensé vous parler des sages-femmes de campagne dans la première partie du XXe siècle. J'ai voulu vous ramener un siècle en arrière pour vous parler des progrès considérables de la médecine et de l'évolution de nos campagnes. Ceci en suivant le travail d'une sage-femme libérale à milieu rural, disons entre 1927 et 1965. Il y avait en France en 1930 un équilibre de population entre le monde urbain et le monde rural. La campagne était composée de petites exploitations familiales autosuffisantes, surtout dans des régions non industrialisées comme le Volvestre, et composées de cantons très étendus, aux routes peu praticables. Après 1920, le manque de bras, avec l'hécatombe de la guerre, va amener à une immigration massive, autant dans les villes industrielles que dans les campagnes, de l'ordre de 6 à 7%. Cette première vague s'est composée de travailleurs polonais venus dans nos bassins miniers, mais aussi de nombreuses familles italiennes, surtout dans le monde agricole. De nombreuses fermes nécessitaient des métayers, ouvriers agricoles, souvent logés dans des dépendances, sans aucun confort et mal payés. Toutes ces familles étaient des familles nombreuses, de 4 à 5 enfants, voire jusqu'à 7, 8. Grâce à distribution des tâches, les anciens étaient toujours très utiles dans les travaux de la traite, l'entretien des étables, la pâture. Les hommes jeunes étaient tournés vers les labours et les moissons. Les femmes étaient plutôt taxées sur l'élevage des volailles et porcs, des collectes de fruits, la cuisine et les tâches d'intérieur. Même les enfants avaient un rôle dès leur plus jeune âge. À la campagne, il n'y avait pas de famine, car il existait sur place l'essentiel, mais un manque absolu de confort et d'hygiène. C'est dans ce contexte que se passaient les accouchements à la ferme ou à la maison de village. Au chef-lieu, il y avait plus de commodités, l'eau courante, souvent une pharmacie, le médecin était proche. Les accouchements se pratiquaient surtout grâce aux sages-femmes, qui avaient déjà un enseignement délivré par les universités de médecine. Les différents gouvernements de l'ancien régime à la Troisième République donnaient aux sages-femmes mission de protéger le nouveau-né et la mère. Ce corps médical est donc né d'une volonté politique. Le corps des sages-femmes recevait un enseignement scientifique sérieux. La profession était détentrice d'un savoir riche et varié. Ainsi, des milliers de jeunes femmes, dès leur diplôme, seront dans nos campagnes les enseignantes du système de santé français. Lettrées, compétentes, les sages-femmes ont ainsi fait bénéficier leurs patientes d'une qualité de soins acquise aux meilleures sources du savoir obstétrical. Ainsi légitimées, elles ont mis au monde l'essentiel de la population française. Elles avaient pour éthique le respect de la vie. Souvent croyantes, elles avaient droit de baptiser l'enfant nouveau-né lorsque sa vie vacillait, avec le consentement, bien sûr, des parents. Bien sûr, les avortements leur étaient interdits, passibles de lourdes peines. Leur rôle était aussi l'écoute de ces jeunes mamans dont la vie était le labeur, sans être comprises souvent de leur mari, parfois violent. La sage-femme rétablissait le dialogue et le respect vis-à-vis de l'épouse, ceci avec fermeté. les médecins n'étaient pas tous des accoucheurs. Leur nombre était de 2 à 3 par canton. 2 à Montesquieu et Rieu, 3 à Carbonne, 2 dans le territoire du Fousseret et puis de Touges. Il y avait d'excellents rapports entre les sages-femmes et les médecins. Parfois, ils se trouvaient ensemble auprès de la patiente à attendre la délivrance. Les sages-femmes faisaient appel à leurs soins lors de complications, mais l'hôpital était loin. Pas d'ambulance. On partait avec la voiture d'un voisin. La pénicilline n'était pas encore connue et les hémorragies étaient la hantise. Et il n'y avait pas d'eau courante dans les fermes. Il faut dire aussi qu'il n'y avait pas encore les assistantes sociales, qui seront créées après la guerre, de même que les infirmières. Aussi, les sages-femmes seront souvent appelées pour porter des soins aux blessés, faire des pansements, des injections ou auprès de personnes en fin de vie. Elles vont éduquer les mamans aux soins des bébés, à leur alimentation, les conseiller sur les premiers principes de la contraception. La sage-femme dont je vous parle a débuté son activité à Saint-Élix en 1927, puis mariée, a accroché sa plaque émaillée à Carbonne. Elle a tenu des carnets d'activité et a fait naître plus de 3000 enfants dans le canton de Carbonne, Longage, Noé, Saint-Élix, allant jusqu'à Haute-Rive et Boussens, etc. Elle y a noté, avec un style très littéraire, toujours avec humour, les épisodes poignants de son parcours de vie. Bien sûr, ils sont indiqués les lieux, jours, heures des accouchements, le nom des accouchés, le sexe de l'enfant, le poids, les difficultés rencontrées, mais aussi son propre journal quotidien. On y trouve également des images pieuses. Dans ses notes, il n'y a pas de défaitisme sur cette société si troublée qui englobe le temps de la guerre. Tous ces soucis qui lui sont occasionnés, ses luttes pour la vie jusqu'à la délivrance, s'estompent dès qu'elle entend le cri du nouveau-né. Pourtant, la vie d'épouse, de mère, s'ajoute au tracas de sa profession. Aider son mari dans son commerce, élever ses 4 enfants en parcourant les routes, absente de nombreuses journées et nuits, croiser ses enfants le matin, au retour d'une nuit de travail, épuisée de tant de responsabilités. Mais ne jamais se décourager. Voilà la vie de cette personne humble qui a choisi son action dans le libéral, au service des femmes. L'écriture de cette dame nous passionne, nous capte, on sent une richesse littéraire chez cette dame cultivée qui nous raconte aussi son enfance et ses études, qui nous renseigne sur la volonté libératrice des femmes des années 20. Dans sa famille, nous dit-elle, il y avait une vieille tante matrone, C'était le terme employé pour désigner les sages-femmes non diplômées du XIXe siècle et qui lui avait donné l'amour de cette profession. Préparer le concours du niveau du brevet supérieur pour une élève volontaire mais d'un milieu pauvre fut une épreuve très difficile. Mais avec l'aide de l'institutrice du village et l'appui de parents très encourageants, elle fut admise à l'école de sages-femmes de la faculté de médecine de Montpellier, la plus prestigieuse école de France. Dans ses écrits, notre ami se souvient du texte de la dissertation du concours d'entrée. « Est-il vrai, comme le dit Diderot, que les femmes font et défont les maisons ?» Alors, quitter le village pour la première fois, prendre le train pour si loin de ses proches, était une autre épreuve pour cette jeune fille. Elle note cet événement comme un déchirement. L'internat à Montpellier était très sévère. Beaucoup de discipline, très peu de sorties, toujours accompagnées. Parfois, le dimanche, nous prenions le petit train pour nous rendre à Palavas voir la mer, après la messe. Le vouvoiement était obligatoire entre nous. Il régnait un sentiment de jalousie et mauvais esprit. Aussi, nous restions un petit groupe d'amis. Nous venions en famille pour Noël, mais pas à Pâques, car les examens étaient proches. Nous prenions nos cours sur des cahiers à gros carreaux, couverture noire brillante. Tranches rouges, nous y dessinions l'anatomie à la plume fine en plusieurs couleurs, notre professeur réalisant les dessins, lui, au tableau de l'amphithéâtre. Installé à Carbonne, dès 1930, elle nous parle de ses consoeurs avec respect. Il y avait en effet une autre sage-femme très dévouée à Carbonne qui parcourait les campagnes au volant de sa 5 chevaux Citroën et qui prit sa retraite après la guerre. Elle aussi notait toutes ses interventions sur de petits carnets qui nous sont parvenus. C'était un exemple de libération de la femme, conduire son véhicule et ne dépendre de personne pour se déplacer. « Moi, écrit notre ami, je ne conduisais pas motivé. Mon mari me portait souvent. J'avais opté pour le vélo, mais les côtes du Terrefort sont nombreuses. Je les montais à pied. Le mauvais temps et le froid me fatiguaient. Je tombais parfois. Aussi, on m'avait ajouté un frein supplémentaire sur le cadre de mon hirondelle. On m'avait surnommé Bartali. Il y avait aussi les chiens de ferme qui me poursuivaient. Je ne compte pas les morsures de chiens errants. Les beaux-parents souvent imposaient le choix du prénom à donner au bébé, en donnant le prénom d'un ancien de la famille. La maman n'avait pas son mot à dire, et parfois pleurait à l'idée d'appeler son enfant Hector ou Hippolyte. J'intervenais afin de donner à l'enfant un prénom moderne. Et on m'écoutait. Souvent, les familles m'invitaient pour le baptême du bébé. J'y allais toujours lors du dessert, car je suis très gourmande. J'aimais ces fêtes. Il y avait les moissons, les vendanges, et l'hiver, c'était la fête du cochon. J'étais appelé souvent par des gens du voyage. Ils installaient leurs roulottes le long du préau. Ils ont continué des années à venir à Carbonne pour accoucher, car ils me connaissaient. Nous ne partions jamais en vacances, un jour ou deux pour aller à Lourdes. La fête locale était notre seul plaisir. Je réunissais ma famille pour la Saint-Laurent, mais souvent le travail m'appelait, je quittais la table, prenais ma valise et partais. C'est ainsi qu'une nuit, un groupe de gitans éméchés est venu demander mes services. n'osant pas sortir. Ils sont revenus menaçants plus tard. Ils ont tapé à l'entrée. Mon mari a ouvert et m'a accompagné. Les roulottes entouraient la halle de longage. Il y avait de la musique, des danses autour d'un feu. C'était presque l'aurore. Il s'agissait d'un mariage gitan. Alors j'ai pratiqué l'accouchement dans une roulotte à un premier niveau de la banquette. J'y voyais très peu avec un quinquet. Il y a toujours une ancienne expérimentée qui faisait bouillir l'eau sur la braise, préparer le linge, parler à la maman car je ne comprenais pas sa langue. C'est alors que je heurtais avec mes pieds, sous la banquette, une forme humaine qui gémissait. J'approchais la lanterne. Il s'agissait des nouveaux mariés qui fêtaient leur nuit de noces. Le lendemain, je retournais pour le suivi des soins. Le groupe avait levé le camp, sans me payer, bien sûr. Cet acte gratuit m'avait coûté beaucoup, beaucoup d'énergie. Il y avait de la solidarité entre voisins lors d'une naissance. Peu disposaient d'un véhicule. Aussi, j'étais obligé de monter avec celui qui venait me chercher. J'ai été amené une fois par un pilote automobile du Bois de la Pierre dans son Amilcar décapotable en plein hiver. Je tenais très fort ma valise sur mes genoux, priais le ciel, il voulait m'impressionner. Une autre fois, sur un sidecar, nous avons terminé dans la mare de la ferme. J'étais crotté jusqu'au mollet. La période la plus difficile pour ces sages-femmes libérales fut le temps de la guerre. Les docteurs du canton avaient été mobilisés. Ne restaient que les médecins âgés qui ne se déplaçaient pas la nuit. Beaucoup de jeunes hommes étaient prisonniers. Aussi, la natalité s'en ressentait. Il y avait moins d'accouchements. Il y avait aussi le couvre-feu. Et le secrétaire de mairie m'avait délivré une autorisation de sortie pour la nuit. « Si vous sortez, c'est à vos risques et périls », m'avait-il dit. Et là, de nombreuses anecdotes nous sont contées, à peine croyables. Combien de situations souvent dangereuses y sont rapportées. À Carbone, existait un poste de surveillance au lieu dit l'embranchement. Les soldats allemands tiraient facilement. Il fallait se signaler, montrer l'autorisation de sortie. Parler quelques mots d'allemand et ouvrir sa mallette sous les lampes aveuglantes. Une fois, après de difficiles explications, je fus accompagné par deux soldats en armes et j'arrivai chez ma patiente, à 100 mètres de là, qui était seule. Le mari était parti au STO. Pour ma part, je n'ai jamais eu peur, mais la patiente, elle, eut ses contractions stoppées à la vue des casques et uniformes gris et n'accoucha que 8 jours plus tard. Ce soir-là, je préférais dormir chez elle plutôt que retourner. Durant cette période sombre, les gens n'avaient pas les moyens de me payer dans les fermes. Aussi, ils me donnaient des provisions comme salaire. Ben, j'étais contente. Parfois, on venait me chercher pour accoucher une personne qui se cachait et fuyait avec ses proches. Ceci dans des conditions difficiles, hein. Les caves, greniers. Les passeurs ont toujours fait confiance à ma discrétion. Une fois, au château de T, les soldats et la milice sont rentrés dans la chambre. Sans doute une dénonce. J'accouchais une maman juive. Je lui ai conseillé de crier très fort. J'ai mis en vue les draps souillés de sang. Ces gens n'ont pas insisté. Je leur ai montré la porte en les invectivant. Les hommes ne sont pas courageux dans ces circonstances. Ils sont sortis aussitôt, sans fouiller la cave où était le mari. Durant toute la guerre, il y eut à Carbone une annexe de la maternité de Toulouse. Elle permettait aux mamans venues en 1939, durant la retirada, d'accoucher sereinement à la campagne. Les mamans isolées, célibataires, y restaient quelques jours. On les appelait filles-mères. Les services sociaux s'occupaient des mamans et bébés, et il y avait aussi des enfants nés sous X. Cet établissement situé près de l'église était sous la responsabilité d'une sage-femme, Madame Petrov. Nous étions amis et parfois j'allais l'épauler. Durant cette affreuse guerre, d'autres épreuves m'ont profondément marqué. Le camp de Noé concentrait des populations de toute origine, des tziganes, des juifs, des réfugiés politiques espagnols. Durant ce triste destin, des jeunes femmes accouchaient sur des paillasses au ras du sol. Le garde champêtre de Noé venait me chercher. J'amenais le minimum de linge, savon, biscuits, du lait concentré. Je mettais au monde des enfants dénutris et déshydratés qui reflétaient la souffrance des mamans. Mon devoir était de les baptiser dès la naissance, comme nous avions prêté serment dans notre charte de déontologie. Qu'ils soient chrétiens ou juifs, je les baptisais tous et exigeais auprès des responsables des soins alimentaires, lait, pain, même viande, afin de réalimenter la maman et l'enfant. J'eus des promesses. J'avais compris, depuis peu, le sort qui leur était réservé avant fin 1942. J'avais lu la lettre de Monseigneur Saliège et écouté notre curé quelques jours avant. Durant cette période, les Allemands ne sont pas venus dans la ville. D'abord, nous avions le pont suspendu à Carbone qui interdisait aux véhicules lourds de traverser la Garonne. Mais aussi, il y avait eu à Carbone des cas de poliomyélite. La municipalité eut l'idée de mettre de grands panneaux le long de la route nationale afin de signaler l'épidémie. Enfin, notre pays libéré, j'eus la joie de vivre le baby-boom. Je venais juste d'accoucher lorsque de nombreuses naissances accompagnaient ma joie. Ce fut une période de 15 années passionnante. Sur le plan médical, il y eut de nombreux progrès. Des médicaments, la contraception, l'accouchement sans douleur, l'hygiène médicale, les soins portés aux bébés, leur vaccination, le suivi des mamans et les services d'urgence. Maintenant, les routes sont en bon état, me permettent de circuler au moyen d'un vélo Solex. Les chemins et les cours de ferme se goudronnent. Je suis enfin payé de mon travail. Mon mari et sa 4 chevaux continuent à me véhiculer lorsque je pars la nuit. J'avais aussi la possibilité de suivre la grossesse et accoucher ma patiente en clinique à Toulouse ou Muret. Nous partions en taxi. J'étais toujours très bien accueilli par tout le personnel. Les jeunes gynécologues me considéraient avec beaucoup de respect et une certaine admiration. Lorsque ces messieurs intervenaient, j'étais à leur côté. Ils voulaient que je leur parle de ma vie professionnelle et de mes expériences. Ainsi, je continuais jusqu'à ma retraite avec la certitude d'avoir donné un sens à mon existence et remerciais le ciel de n'avoir jamais eu de gros accidents médicaux sur la mère ou l'enfant. Mais je ne souhaiterais pas revivre ce que j'ai vécu. Par ce témoignage, nous nous rendons compte de la difficulté d'exercer cette profession si louable dans cette période d'avant, disons, 1950. Le souvenir de la sage-femme reste toujours dans la mémoire de la maman. Le cri du bébé, long à venir parfois après un silence angoissant, est une joie extrême pour la maman et la sage-femme. À notre époque, nous observons cette évolution considérable du confort des soins apportés aux jeunes mamans et leurs bébés. Les sages-femmes, confidentes de la maman, seront toujours présentes dans la société. Les études de maïeutique avec le concours d'entrée durent 5 ans et elles ont acquis des compétences reconnues. Il est sûr que notre amie sage-femme, qui a toujours refusé les médailles et les honneurs, aurait soutenu aujourd'hui les accoucheuses et les accoucheurs qui revendiquent à juste titre. Merci donc à la famille de cette dame pour nous avoir permis l'accès à ces témoignages. Et je vous souhaite un bon mois et à la prochaine émission. Retrouvons-nous pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5 FM.